Voilà, bah écoutez, donc bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc effectivement, j'enseigne l'histoire des mondes médiévaux musulmans à l'Université de Nantes depuis maintenant pratiquement 30 ans, hein, pas loin de là. Et c'est vrai que les enseignants-chercheurs ont cette particularité qu'ils enseignent des choses assez générales sur leur période. Et en plus, ils ont un thème de recherche. Et c'est vrai que moi, mon thème de recherche, c'est Al-Andalus, c'est la péninsule ibérique, hein, au moment islamique de son histoire. Et donc là, pour les besoins des jardins d'islam, j'ai un petit peu élargi mon Al-Andalus en fait à l'ensemble des mondes musulmans médiévaux. Donc pour vous parler, effectivement, c'était le thème qu'on m'avait demandé de traiter, des jardins d'Orient, hein, des jardins d'islam en fait, pardon, des jardins présents dans les mondes de l'islam en général, et je parlerai autant de l'Orient que de l'Occident, hein. L'Occident, c'est bien sûr Al-Andalus, mais c'est aussi le Maghreb. Et j'essaierai d'évoquer toute la période, alors, dite médiévale par la tradition académique universitaire française, vous savez, qui découpe l'histoire en quatre tranches, hein, l'histoire ancienne, la médiévale, la moderne et la contemporaine, même si c'est vrai que pour le monde de l'islam, c'est un découpage qui est un peu aberrant, parce que s'arrêter à la fin du XVe siècle, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, puisqu'on démarre tout juste l'époque ottomane et qu'on se demande pourquoi on la coupe comme ça. Mais voilà, ça fait partie des us et coutumes de l'université, même en fait de l'enseignement depuis la classe de 6e jusqu'à la fin des études universitaires. Donc voilà, moi je suis médiéviste, donc je ne me permets pas d'aller empiéter sur les terrains des modernistes. Voilà, alors, point de départ, c'est un constat. Le constat, c'est l'omniprésence du jardin dans en fait l'architecture de l'islam, l'architecture du palais, bien entendu. Tous les palais de l'islam ont eu leur jardin, architecture de la maison aussi, hein, mais aussi architecture de la mosquée. Et cette omniprésence du jardin, elle existe en fait dès les premiers temps de l'islam, puisque là, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des mosaïques de la grande mosquée de Damas, donc qui est édifiée au 8e siècle. Et qu'est-ce que l'on représente sur les panneaux en fait, qui sont à l'intérieur de la cour de la mosquée de Damas? Eh bien, on représente des paysages de jardin, des paysages je dirais, de végétation. Donc là, ce sont en l'occurrence des mosaïques. Bon, elles sont extrêmement célèbres, elles font partie de ce petit lot assez réduit de mosaïques murales du monde de l'islam, mais elles sont effectivement extrêmement célèbres. Donc très vite, hein, tout de suite, dès le 8e siècle, les mosaïques de la cour de la mosquée de Damas, et puis ce jardin, on le trouve omniprésent tout au long de l'histoire. Là, je vous mets sous les yeux deux autres images, celle du fameux Généralife de Grenade. Là, donc on est en Andalousie au 14e et 15e siècle, mais à Séville aussi, les palais royaux, hein, de Séville ont en plein cœur, au centre en fait de l'architecture des palais. Alors cette passion pour le jardin en fait dans l'architecture palatine, je dirais qu'elle existe, elle est tout au long de l'histoire de l'islam. J'ai un petit peu débordé chez mes collègues modernistes, mais c'est pas grave, personne n'a pas dans la salle dont j'ai le droit. Si on va un petit peu plus loin, eh bien le Taj Mahal, hein, donc là c'est 1648, donc on est au XVIIe siècle. Le Taj Mahal, c'est aussi finalement bien un palais somptueux, mais c'est aussi une zone de jardin, hein, absolument extraordinaire. Et puis on peut aller jusqu'à l'époque contemporaine, le parc Al-Azhar au Caire, ouvert en 2005, est un grand jardin, hein, en plein cœur d'une ville. Voilà, donc là, je pense que je ne vous ai rien appris. La présence, l'omniprésence du jardin dans l'architecture palatine, voilà, c'est quelque chose dans le monde de l'islam qui est extrêmement connu. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait être là plus qu'une heure et demie. J'ai choisi de vous raconter trois choses, vous expliquer trois choses. D'abord, de vous expliquer quelles sont les racines du jardin. Quelles sont les origines en fait de ces nombreux jardins de l'Orient? On va remonter jusqu'à Babylone, hein, pour aller justement jusqu'au monde de l'islam, pour que je vous mette un petit peu en place en fait les cadres qui ont précédé, hein, l'expansion de l'islam. Et puis ensuite, eh bien, on entrera là en partie un petit peu historique, si vous voulez. Je dirais qu'on entrera un petit peu plus dans une série d'exemples, et je vous montrerai quelles sont les formes très diverses quand même des jardins, les raisons d'être aussi de cet art du pays. paysages. Et là, on va beaucoup se promener entre donc, le Mashrik, hein, ce qui est à l'est, hein, qu'on appelle aujourd'hui globalement le Proche-Orient, si vous voulez, et le Maghrib, ce qui est au contraire à l'ouest. Attention, le Maghrib au Moyen-Âge, pour l'islam, c'est à la fois le Maghreb d'aujourd'hui et à l'Andalous, hein, la péninsule ibérique. Et donc, on prendra des exemples. Là, je resterai médiéviste entre le 8e et le 15e siècle. Et puis quand même, pour voilà, faire un petit clin d'œil à l'époque plus récente, je vous donnerai quelques exemples des héritages de ces jardins d'islam, soit dans notre vie quotidienne. Vous verrez qu'au niveau des fruits, des légumes, des fleurs, il y a beaucoup d'héritages, en fait, peut-être insoupçonnés, de ces jardins. Et puis donc, on ira jusqu'à des créations, en fait, relativement récentes de jardins sur le modèle du jardin andalou. Alors, on remonte très très loin en arrière, on repart vraiment dans le temps jusqu'il y a très longtemps. On remonte aux racines du jardin en Orient et on remonte à une période antérieure, hein, à l'islam. Donc au moment de la grande expansion de l'islam, hein, celle qui se fait donc au 7e siècle, après la mort du prophète, les conquérants qui viennent donc d'une Arabie particulièrement difficile en termes de conditions climatiques, ces conquérants venus de l'Arabie extrêmement aride vont entrer en contact avec des civilisations qui, elles, connaissent et maîtrisent en fait les techniques de l'eau depuis très longtemps, donc maîtrisent en fait la tradition du jardin. Alors, quelles sont ces civilisations? Ce sont celles de la Mésopotamie, ce sont les deux civilisations de Babylone et de Ninive. Et bien entendu, quand on pense au jardin, hein, on pense, c'est inévitable, au jardin suspendu de Babylone. Alors, Babylone, donc au sud de Bagdad, hein, sur l'Euphrate, qui est un site du 6e siècle avant Jésus-Christ, le problème des jardins, enfin, des fameux jardins suspendus de Babylone, j'espère que vous n'allez pas être trop déçus, mais c'est que ces jardins ne sont connus que par des auteurs extrêmement tardifs. Ainsi, l'un des auteurs qui décrit le mieux les jardins suspendus de Babylone, c'est Flavius Joseph, qui est un auteur du 1er siècle après Jésus-Christ, qui lui connaissait l'œuvre d'un auteur extrêmement ancien, un certain Bérose, qui était un érudit babylonien, effectivement, du 4e siècle, qui avait écrit en grec une histoire de la Mésopotamie. Et vous voyez, c'est à partir de témoignages pris à un autre témoignage qu'on a mis en scène ces jardins de Babylone, dont on dit qu'ils ont été construits par un roi qui portait un joli, moi j'aime beaucoup, hein, Nabucodonosor II, pour son épouse, hein, Sémiramis, comme c'était la journée de la femme il n'y a pas longtemps, on en profite, qui était d'origine perse et qui regrettait les collines boisées de son pays. Donc les jardins de Babylone, pour faire plaisir à son épouse, eh bien Nabucodonosor aurait mis en place ces jardins suspendus. Alors comment étaient-ils suspendus? Là est un petit peu la question, avec un système très ingénieux, non seulement de terrasses peut-être suspendues, mais surtout, qui dit jardin, d'un système hydraulique qui permettait d'arroser toutes les terrasses du jardin. Alors c'était l'une des sept merveilles du monde, hein, avec la pyramide de Khéops, qui est la seule de ces sept merveilles à être conservée aujourd'hui. Alors ça, voilà, ces jardins suspendus de Babylone ont frappé l'imagination et on a tout un tas de représentations forcément totalement imaginaires de ces jardins de Babylone. Le problème, c'est que le site de Babylone a été fouillé. Hein, il y a fort longtemps, dans les années entre 1899 et 1917, les jardins ont été fouillés, mais on n'a pas retrouvé de jardin. On n'a pas retrouvé de jardin. Alors, ben, première hypothèse des chercheurs, si par transmission de témoignages, on nous parle de jardin à Babylone et qu'on n'en trouve pas quand on fait des fouilles archéologiques, première hypothèse, ben, c'est qu'ils n'ont pas existé. C'est une possibilité. C'est l'hypothèse qui a longtemps, je dirais, qui a longtemps eu cours. Et puis, il y a quelques années, au début du 21e siècle, pour le coup, une chercheuse anglaise, une archéologue anglaise, Stéphanie Dallet, de l'Université d'Oxford, a émis une autre hypothèse, à savoir que les jardins suspendus ne se trouvaient pas à Babylone, mais ils se seraient trouvés plutôt à Ninive, qui était la cité rivale de Babylone et qui était la capitale du roi d'Assyrie. Et effectivement, à Assyrie, hein, au nord de la Mésopotamie, en Assyrie, qui était donc l'autre empire, hein, qui contrôlait l'Irak, la Syrie, au 8e, 7e siècle avant notre ère. L'une des capitales de la Syrie, c'était Ninive, dont les vestiges se trouvent aujourd'hui dans la banlieue de Mossoul. Et au British Museum de Londres, un bas-relief qui met en scène, en fait, la ville de Ninive, ce bas-relief qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, représente en effet un jardin tout à fait luxuriant. Alors on a un petit peu mis des couleurs, hein, sur le bas-relief pour que ce soit plus clair, mais ce qu'on voit, c'est une végétation très abondante et on voit effectivement des canaux, hein, qui permettent d'irriguer les différentes parcelles. Donc c'est la dernière hypothèse, voilà, qui a cours, faute de trouver les jardins suspendus de Babylone, eh bien on les imagine dans la cité rivale qui était Ninive. Donc premier héritage, l'héritage mésopotamien. Deuxième héritage, l'héritage de la Perse. Les Achéménides d'une part et les Sassanides de l'autre. Alors qui sont les Achéménides, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Achéménides, c'est une dynastie qui correspond en gros à l'Iran, pour faire vite, d'aujourd'hui, qui règne entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est, je dirais, très loin dans le temps. Et la capitale des Achéménides, Pasargade, hein, qui se trouve en Iran à une quarantaine de kilomètres de Persépolis, a été la capitale de l'empire achéménide, bâtie par un certain Cyrus au 6e siècle, en 546 avant Jésus-Christ, à 1900 mètres d'altitude. Donc là, aller chercher des rivières, c'est très compliqué. La rivière était très très encaissée, vraiment très loin. L'eau ne pouvait pas être amenée dans la capitale de Cyrus. Donc Cyrus a fait construire toute une série de barrages successifs qui débutent à 30 km en amont du site et qui réussit à amener l'eau jusqu'à Pasargade. Alors ce site de Pasargade a été fouillé aussi, c'est un site de 160 hectares, donc c'est un site absolument gigantesque, et ce que les archéologues ont retrouvé, entre autres, eh bien c'est un jardin. C'est un jardin situé entre les bâtiments officiels et les résidences privées, et ce jardin, donc c'est la reconstitution là, de la deuxième image, ce jardin était partagé en quatre parcelles égales, hein, partagées en quatre parcelles égales par un double système, à la fois une allée qui permettait la circulation des personnes et en fait un canal qui faisait circuler l'eau. Alors ces quatre parterres délimités par des canaux ou des allées possédaient aussi des pavillons, donc on a plusieurs tentatives de reconstitution de ces jardins, et puis l'autre image sur la droite vous montre ce que les archéologues ont découvert, hein, pour vous montrer aussi un petit peu des fois la rudesse, la sécheresse du travail de l'archéologue, hein, c'est à partir de ces canaux simplement de circulation de l'eau que l'on essaye de reconstituer le paysage hydraulique et le paysage végétal de l'époque. Alors Pasargade, c'est vraiment un élément clé parce que donc c'est la première fois, c'est le plus ancien jardin divisé en quatre espaces égaux que l'on a retrouvé jusqu'à présent, et on considère que Pasargade est en fait le modèle du jardin que l'on appellera après à plan cruciforme, hein, et que l'on retrouvera bien sûr très présent dans l'architecture de l'islam. Le Pasargade, donc pour la Perse, mais aussi l'autre dynastie, celle des Sassanides, qui règne entre 224, on passe de l'autre côté de notre ère en fait, 224-651 de notre ère, les palais des Sassanides disposaient de très grandes zones closes, végétales, dans lesquelles évoluaient des animaux sauvages, qui étaient en fait des enclos de chasse royaux, hein, que le souverain, avait fait délimiter pour le plaisir princier de la chasse. Et donc sur certains bas-reliefs, hein, de Tak et Bostan, qui est un site sassanide d'une 4e, 6e siècle de notre ère, situé au nord-ouest de l'Iran, eh bien on a découvert deux grottes sculptées qui représentent effectivement une chasse aux sangliers et l'autre une chasse aux cerfs. Autrement dit, ce qui introduit une autre idée du jardin, d'un jardin qui n'est plus, rigoureusement organisé, délimité, mais une forme de jardin, un petit peu plus sans ordonnancement, hein, rigoureux, mais qui est quand même un espace clos et délimité. Donc ça, ce sont les héritages essentiels, hein, la Mésopotamie d'un côté, la Perse de l'autre. Alors, à ces deux héritages bien connu, hein, par des sources, je dirais, archéologiques, hein, ou là, en l'occurrence, par des sources iconographiques, s'ajoutent deux autres sources, mais moins bien, en fait, connues, je dirais, sources de techniques hydrauliques, le fameux Yémen de la reine de Saba, hein, on sait, donc, la reine de Saba qui règne entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle après Jésus-Christ, donc ce fameux royaume un peu mythique de la reine de Saba, on sait que ce royaume maîtrisait les techniques hydrauliques, mais on a, en revanche, pas de données sur les jardins, hein, non, voilà. Mais voilà aussi, je dirais, la fameuse maîtrise de l'eau qui est essentielle au jardin. Et puis également la conquête de l'islam, lorsque l'islam, je dirais, quitte l'Arabie pour faire la conquête des États voisins, il y avait entre autres la Syrie byzantine à ce moment-là, et c'est vrai que Byzance a maintenu dans ses provinces orientales, hein, c'est-à-dire la Syrie, la tradition du jardin qui avait été développé par Rome. Rome qui développe aussi un type de jardin, l'archétype du jardin romain avec des bassins et des sculptures. Donc autrement dit, c'était la première idée que je voulais amener, c'est que au moment de la conquête, des conquêtes en fait de l'islam, les Arabes d'Arabie, hein, les Arabes au sens des Arabes d'Arabie, des grandes tribus arabes d'Arabie, vont s'installer là où avaient existé des jardins de très grandes civilisations hydrauliques, la Mésopotamie, la Perse, la Syrie, mais aussi l'Égypte, hein, qui sont des grandes civilisations de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il reste de ce legs au moment, justement, où les troupes venues de la région de Médine vont s'installer, et dans la Perse, hein, en Perse, donc, qui est conquise en 641, et en Égypte, qui est conquise en 642. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au moment de l'avènement de l'islam, une bonne partie de ces infrastructures existe toujours, mais en fait elle est en ruine ou elle est inutilisable. Hein, la fin de l'époque sassanide au 7e siècle est une époque de destruction des infrastructures, soit à cause de luttes, je dirais, internes dans l'empire des Sassanides, soit aussi parce qu'il y a eu des changements climatiques, hein, toutes les époques ont eu leurs changements climatiques, une montée de l'envasement et la formation des marécages au bas Irak qui ont rendu en fait... Et pourquoi ça s'est tout d'un coup... éteint. Moi, mon écran est toujours allumé, mais il n'y a plus d'image. Donc là, je n'ai touché à rien. Je n'ai touché à rien, mais il n'y a plus d'image. Donc moi, je l'ai, mais est-ce que... Et le vidéoprojecteur clignote. Ah. Vous allez le mettre en... C'est vrai que les jardins sans images, ça va être moins bien. Je peux continuer à vous parler des jardins sans images, mais je préfère quand même avec des, hein, avec des images. Bon, c'est vrai, pour vous expliquer que voilà, l'archéologie a montré que toutes les structures hydrauliques, en particulier du bas Irak, eh bien, étaient rendues inutilisables au moment, hein, de la conquête de ces zones-là. Mais bon, je préférerais quand même ensuite vous montrer, vous parler de la révolution de l'eau au temps des Abbassides avec un petit peu d'images. Hein, ça va quand même être un petit peu plus commode. Voilà, bon. Alors, c'est un incident technique qui est indépendant vraiment de ma volonté, mais c'est vrai que c'est du matériel un peu fragile, ces vidéoprojecteurs. Donc, voilà. J'espérais trouver une solution. Là, oui, je crois qu'il y a une... Peut-être, voilà, tout simplement éteindre et rallumer des fois le vidéoprojecteur. Mais pour le coup, la responsable, elle est partie avec la télécommande. C'est vrai que des fois, il suffit tout bêtement de le... Oula. On attend qu'il revienne, que l'image revienne. Ah, oh, que la lumière soit. Et... On ne va pas le dire trop vite parce que c'est toujours des... du matériel toujours un peu fragile. Donc, on attend que Panasonic. Oh, merveilleux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est reparti. Donc, on espère que, voilà, que ce sera la seule. Vous gardez l'escabeau au cas où. Bien. Donc, un héritage. Hein, le monde, comment dire, l'expansion de l'islam hors de l'Arabie, l'islam né en Arabie, l'expansion de l'islam hors de l'Arabie se fait dans des régions qui avaient connu, qui avaient maîtrisé la technique de l'eau, hein, même si une bonne partie des infrastructures, et je dirais, est un petit peu hors service, en fait, dans l'essentiel de ces espaces. La deuxième racine, en fait, du jardin en Orient, c'est la révolution, ce qu'on appelle la révolution de l'eau, hein, c'est le nom qu'on lui donne, la révolution de l'eau qui se passe dans la Bagdad au temps des Abbassides. L'eau est vraiment la fondatrice, je vous ai remis vraiment l'ouvrage de celui qui a été le maître, là, pour le coup, de l'histoire de l'hydraulique arabe, qui est Mohamed El Faiz, les maîtres de l'eau, hein, histoire de l'hydraulique arabe, et effectivement, l'eau est la fondatrice de ces jardins arabes. Musulmans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des jardins, du développement des jardins en islam sans faire allusion à cette révolution technique qui a lieu donc dans l'Irak abbasside, c'est-à-dire entre les 9e et 10e siècles. Et c'est cette maîtrise hydraulique qui permet de développer l'agronomie, qui permet de développer la botanique et qui permet de créer de très grands jardins. Hein, et l'âge d'or de l'hydraulique arabe, hein, la mise en place est 9e, 10e siècle, et cet âge d'or, il s'étend jusqu'au 12e siècle. Alors, il est certain que cette maîtrise de l'hydraulique arabe, elle a pour origine les techniques hydrauliques mésopotamiennes et hellénistique, mais il y a révolution de l'eau dans la Bagdad des Abbassides pour plusieurs raisons. D'abord pour une série d'innovations techniques que décrivent des traités. On conserve des traités d'hydraulique qui ont été rédigés, produits dans la Bagdad abbasside, qui sont destinés justement aux bâtisseurs de jardins pour leur expliquer comment faire pour amener en fait l'eau dans leur jardin. Exemple, le traité des trois frères Banu Moussa qui vivaient à Bagdad au 9e siècle, dont le traité de mécanique explique par exemple le système du jet d'eau. Comment construire un jet d'eau et puis que le jet d'eau décrive en fait des formes variées. Autre exemple d'un point de vue plus technique, la vis sans fin, le pignon vis sans fin qui va effectivement être un outil absolument clé dans la circulation de l'eau. Autre exemple, un traité d'exploitation des eaux souterraines qui est dû à un certain Al-Karadji qui était mathématicien et ingénieur de Bagdad, mort en 1019, qui contribue donc à la modernisation d'un ancien système de drainage des eaux souterraines qu'on appelle Kanat. Alors cet auteur, d'ailleurs, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement pragmatique à l'égard des textes religieux. Voilà ce qu'il écrit, je vous amène une citation. Il dit « J'ai rapporté tout ce que la loi islamique prescrit, car il est préférable de s'en tenir à elle, là où il n'y a pas d'autres règles. » mais il se pourrait qu'elles ne suffisent pas toujours et qu'on doive tenir compte de l'extrême variété des roches. Hein, donc c'est quelqu'un de très pragmatique, il connaît parfaitement, bien sûr, comme tous les lettrés de l'époque, tous les textes religieux, mais de temps en temps, il dit, bon, des fois, il faut être pragmatique, il faut voir la réalité du terrain pour décider comment faire. Donc, première chose, premier aspect de cette révolution de l'eau, je dirais la rédaction de traités qui vont mettre au point des techniques nouvelles. Deuxième aspect de cette révolution de l'eau, c'est le développement systématique partout des techniques d'approvisionnement en eau, que ce soit pour les eaux de surface ou pour les eaux souterraines. En ce qui concerne les eaux de surface, renaissent, alors il y avait des canaux qui existaient mais qui n'étaient plus en état, hein, donc les canaux sont remis en état, les digues et les barrages aussi, et les quatre appareils clés qui sont utilisés pour l'irrigation, c'est d'une part la roue hydraulique, hein, la fameuse noria de nos amis espagnols, la naura donc arabe, qui est actionnée par l'énergie hydraulique et qui permet d'élever l'eau depuis le niveau du fleuve jusqu'au niveau des palais et des jardins qui ont besoin d'eau. Alors la noria, il en reste les vestiges d'une magnifique encore à Cordoue au bord du Guadalquivir. La noria permet d'irriguer des centaines d'hectares. Hein. C'est une quantité d'eau relativement importante qui est, je dirais, sortie du fleuve de manière permanente. Deuxième système pour élever l'eau de surface, qu'on appelle la machine à godet, alsaquilla ou alsanilla, qui est actionnée, elle, pour le coup, par des animaux. C'est pour ça que les Espagnols disent noria de sangre, la noria du sang, parce que c'est un animal qui fait tourner, en fait, là, pour le coup, la noria. Hein, ça donne l'espagnol acequia, qui vient donc de l'arabe alsaquilla, qui permet d'irriguer, par exemple, les jardins situés à l'intérieur des villes. Hein, le système est, on va dire, de dimension plus modeste, en quelque sorte. Troisième système, alors ces systèmes-là vont être développés partout, à très grande échelle, dans tout, en fait, l'empire arabo-musulman. Le système de poulies qui permet d'élever l'eau dans des seaux en cuir au moyen de la traction animale. Hein, une ou deux poulies sont placées au-dessus du puits, et puis donc on fait remonter les seaux au fur et à mesure, et le puits à balancier, al-Shadouf, très présent en Égypte, avec des volumes d'eau beaucoup plus modestes qui sont transportés. Ça, c'est pour les eaux de surface. Et puis aussi, et en même temps, et je dirais surtout, Le monde arabe met en place un système très sophistiqué au niveau des techniques de drainage des eaux souterraines. Alors, il y a plusieurs termes de vocabulaire, mais qui désignent en fait à peu près la même chose, mais qui font référence à différents espaces de l'islam. Kanat est le terme, on va dire, générique et très présent en Orient, hein, et le terme de Khetara ou de Foyara sont des termes plus, on va dire, plus locaux, qu'on va trouver plutôt, je dirais, vers le Maghreb. Alors, vous avez sur l'image le principe même de ce qu'on appelle donc le kanat. Donc, on a une série de galeries, hein, qui partent, enfin, de puits plutôt, qui partent du niveau du sol. Ce sont toutes ces séries de points, là, vous voyez, en photo aérienne. Et à chacun correspond donc un puits qui vient jusqu'au niveau de la nappe phréatique. Et lorsqu'on atteint le niveau de la nappe phréatique, eh bien on commence à creuser cette galerie, hein, qui est, non, si je me lève, on m'enregistrera plus, mais c'est pas grave, juste une minute, hein, quand même, pour vous montrer. Donc on creuse toutes ces galeries, tous ces puits, en fait, hein, tous ces points que vous avez là, ce sont tous les puits qui sont creusés ici, à quelque espace l'un de l'autre. Quand on arrive au niveau souterrain, quand on arrive au niveau de la nappe phréatique, celle que vous voyez ici, eh bien on commence à creuser une galerie pour capter l'eau, et l'eau qui est captée, eh bien elle est acheminée par cette galerie jusqu'à rejoindre en fait le niveau du sol, ce qui permet de récupérer l'eau à ce niveau-là. Alors le kanat est extrêmement développé en Orient, hein, au Proche-Orient, mais il l'est aussi également au Maghreb, et on dit de la ville de Marrakech qu'elle est entièrement bâtie sur des kanats. Donc ces eaux souterraines, hein, sont donc, je dirais, exploitées finalement avec cette technique, qui sont donc, mais c'est tous ces puits que l'on creuse, ce sont en fait des galeries d'aération qui permettent aussi, non seulement de creuser la galerie drainante, mais aussi de descendre dans la galerie pour la nettoyer, pour l'entretenir, pour la réparer quand c'est nécessaire. Donc il y aurait à Marrakech, donc qui est fondée vers 1060, par les Almoravides, il y aurait 600 khanats construits et un réseau de 800 km de galeries drainantes souterraines qui permettent en fait de récupérer l'eau. Je vous reparlerai tout à l'heure de l'Agdal de Marrakech qui consiste en un jardin de 500 hectares. Donc comment voulez-vous alimenter un jardin sans une quantité d'eau, je dirais suffisante. Alors la troisième source peut-être du jardin, c'est le texte sacré, le paradis comme archétype du jardin. Alors là aussi, c'est comme tout à l'heure les jardins de Ninive, j'espère que je ne vais pas amener trop de troubles dans votre réflexion. La question, c'est est-ce que le paradis est l'archétype du jardin, le modèle du jardin? C'est une idée qui est très présente dans la littérature, de dire que voilà, le paradis, c'est le modèle du jardin. C'est-à-dire que toutes les publications ou presque sur les jardins en islam renvoient de manière systématique, mais elles ont raison quelque part, bien sûr, à l'image coranique du jardin, à l'idée que le jardin sur terre est conçu à l'image du jardin céleste. D'où cette idée d'ordre, d'harmonie, d'abondance et d'eau. Alors, quels sont les motifs? Pourquoi est-ce que les chercheurs ont très souvent associé le jardin et le paradis? D'abord pour une similitude lexicale. J'aime beaucoup l'histoire des mots, l'histoire du vocabulaire, comment les mots sont fabriqués, comment ils circulent. C'est vrai que Jana, en arabe, c'est le jardin, mais c'est aussi le paradis. C'est vrai aussi, deuxième idée, que le paradis est décrit comme un jardin. Et que cette idée d'un paradis qui est un jardin, elle est très présente dans le Coran. C'est un jardin où passent quatre fleuves, ce sont les mêmes quatre fleuves, bien sûr, du paradis biblique. Donc voilà un extrait, par exemple, de la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former quatre bras. Genèse 2, 8, 10. Donc l'Éden, c'est un très vieux mot, d'ailleurs, sumérien. Et dans le Coran, je crois que c'est cette phrase que je vous ai remise, il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Donc on retrouve nos quatre ruisseaux. Alors donc voilà d'où vient cette idée, cette association très très forte entre le paradis et le jardin. Il y a quelques voix quand même qui se sont élevées pour critiquer un petit peu cette association systématique. D'abord, il y a l'idée, qui est aussi très présente dans tous les ouvrages d'histoire de l'art, c'est qu'un artiste n'a pas le droit de rivaliser avec Dieu. Parce qu'il court quand même le risque que le jour du jugement dernier, Dieu lui demande de donner vie à ce qu'il a fabriqué. Donc il vaut mieux éviter de se prendre pour Dieu et de fabriquer ce que Dieu aurait pu lui-même fabriquer. Donc vouloir créer, reproduire le paradis sur terre dans son jardin, ça risque quand même d'exposer au châtiment divin le jour terrible du jugement dernier. D'autre part, dans les sources arabes relatives au jardin et aux techniques en fait hydrauliques, il n'y a aucun texte qui indique que la construction du jardin doit s'inspirer du paradis tel qu'il est décrit dans le Coran. Et puis enfin, au contraire, quand on regarde de près les textes médiévaux, eh bien, on constate que certains auteurs arabes du Moyen-Âge ont critiqué très sévèrement les jardins, les luxueux jardins de certains palais et de certaines maisons. Pourquoi ? Parce qu'il y avait là un luxe inutile, contraire justement à l'esprit du Coran. Alors je citerai simplement Ibn Khaldoun qui est la très très grande plume de l'islam médiéval dans sa fameuse Muqaddima, les prolégomènes. Ibn Khaldoun est l'auteur d'une histoire universelle qui a, je dirais, inspiré même des penseurs du XXe siècle. Yves Lacoste, grand géographe Yves Lacoste, puise beaucoup chez Ibn Khaldoun pour décrire entre autres les problèmes liés au sous-développement. Voilà ce qu'écrit Ibn Khaldoun. Il écrit « La ville où l'on a planté un grand nombre de citriques ornementaux est proche de sa ruine. Les jardins sont le signe de la décadence d'une civilisation et sont assimilés au pire des vices car on y plante des végétaux sans valeur nutritive. » Voilà, le jardin, le raisonnement d'Ibn Khaldoun est le suivant. Le jardin amène l'indolence. S'il y a trop d'indolence, eh bien les hommes ne sauront plus défendre leur territoire, ce qui amènera à la ruine de leur civilisation. Donc en fait, loin de trouver l'éloge des jardins, on a au contraire des propos extrêmement critiques. Alors du coup, on est venu à se demander si le paradis était vraiment l'archétype, le modèle du jardin. Et en fait, c'est l'historiographie, c'est-à-dire la façon d'écrire l'histoire qu'ont eu les historiens du XXe siècle, qui a bâti en fait cette image à partir de ce qu'on appelle en philosophie une tautologie, c'est-à-dire un raisonnement circulaire. Hein, le sujet et le prédicat sont la même chose. Comme dans le Coran, le paradis est décrit comme un jardin, alors sur Terre, tous les jardins sont des paradis, sont à l'image du paradis. Non, hein, en fait, le raisonnement est circulaire, mais en fait, il est erroné. Donc, que le Coran décrive un magnifique jardin pour être le paradis, oui, mais c'est pas pour autant que tous les jardins bâtis par les souverains, les différents califes, sultans, etc., avaient pour modèle le jardin du paradis. Voilà donc les racines, hein, les trois racines, on pourrait dire, de tous les jardins en fait de l'islam. Un héritage, hein, antérieur, la grande révolution abbasside de l'hydraulique, et puis donc peut-être sans doute quelque part, certains avaient-ils comme souvenir, comme modèle, je ne sais pas, le Coran, mais voilà, cette dernière idée, elle est beaucoup plus nuancée aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois. Alors maintenant, quelles ont été les formes, quelles ont été aussi les raisons d'être de cet art du paysage? Donc là, on va partir un petit peu, je dirais, à droite et à gauche. On va partir aussi bien en Machrik qu'au Maghrib et on va se promener entre le 8e et le 15e siècle. Alors, il y a des caractéristiques générales, hein, qui sont valables pour tous les jardins et puis vous verrez que certains, par contre, ont leur particularité. La première caractéristique, c'est celle que j'ai indiquée, c'est-à-dire que le jardin est un jardin clos, toujours soigneusement fermé. Ça, c'est une donnée, on va dire, universelle. Et deuxièmement, que ce jardin, soit il est quadripartite, c'est le fameux jardin avec quatre parterres égaux que j'ai évoqué tout à l'heure, ou bien le jardin, au contraire, il est à ordonnancement libre. Hein, il n'y a pas de système de quatre parterres égaux. Alors, première chose, donc, le jardin est toujours clôturé. Ça, c'est le jardin du Generalife, donc à Grenade, hein, juste au-dessus de l'Alhambra. Vous voyez que le jardin est enfermé par de hauts murs. Alors, c'est vrai qu'il y a un mur qui est un petit peu plus aéré que l'eau, donc on peut regarder un peu sur l'extérieur, mais le jardin est clos de hauts murs. Il est protégé du monde extérieur parce que le jardin est quand même avant tout un lieu de repos, un lieu de contemplation, hein, mais... Ça, c'est là, on va dire, le côté peut-être un peu, pas symbolique, mais d'une des fonctions du jardin. Mais je dirais, qui suis quand même aussi un peu archéologue sur les bords, je dirais que d'un point de vue tout bêtement matériel, il faut protéger les jardins des divagations des animaux. Hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre en place un système très sophistiqué d'irrigation pour voir n'importe quel animal venir brouter les fleurs du jardin. Donc je pense aussi que pour une raison toute simple, on a toujours clôturé soigneusement les jardins. Deuxième chose, il a toujours existé, on a toujours trouvé à peu près dans l'ensemble du monde de l'islam à toutes les époques, on a toujours trouvé côte à côte, indépendant l'un de l'autre, deux types de jardins. Le premier type de jardin, c'est ce jardin qu'on appelle quadripartite. Hein, nos collègues espagnols disent el jardín de crucero, hein, le jardin en forme de croix, qui est le jardin en général de plan, alors plutôt rectangulaire, hein, dont l'espace clos est divisé en quatre parterres égaux. Ces quatre parterres sont séparés entre eux par des canaux, hein, qui délimitent chacune des parcelles, ou bien qui sont séparés par des allées qui permettent la circulation des hommes. Alors, les fonctions de ce jardin dit quadripartite, la fonction d'abord, elle est symbolique, hein, l'organisation est parfaite, du coup, on a une géométrie absolument parfaite, l'ensemble est très symétrique, et le jardin, quelque part, reproduit l'ordre du monde, et il donne l'image d'une nature qui est complètement magnifiée, qui est facile à vivre, qui est, on va dire, totalement domestiquée. Hein. Elle est parfaitement, elle est d'une extrême régularité. Bon, ça, c'est donc la fonction symbolique. Là aussi, je dirais que d'un point de vue pratique, une telle disposition facilitait le système d'arrosage, parce qu'il suffisait de disposer dans chacune de ces quatre allées, finalement, et puis à la périphérie de l'ensemble, il suffisait de mettre en place des petits canaux d'où l'eau s'écoulait à chaque fois vers la végétation. Hein, donc, les fonctions symboliques à l'époque médiévale, oui, j'aime bien, mais j'aime aussi bien les choses, je dirais, pratiques. Deuxième finalité pratique d'une telle organisation, ce système permettait la circulation entre les parterres. Les parterres sont en creux, ils sont légèrement en fait en dessous du visiteur qui se promène dans les allées, ce qui fait que le visiteur qui circule dans les allées domine un petit peu, si vous voulez, ce parterre de fleurs, et il permet, comme il profite peut-être comme ça plus facilement des couleurs, des senteurs aussi, et de la fraîcheur qui se dégage de la végétation. Hein, de la végétation, il sort toujours un peu, on dirait, d'humidité, et c'est beaucoup plus, fonctionnel d'être légèrement au-dessus de cette végétation. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces jardins quadripartites? Eh bien, je dirais qu'on les trouve à peu près partout, c'est vraiment le jardin des palais urbains par excellence. On les trouve d'abord dans ce qu'on appelle les fameux châteaux du désert Omeyyade, hein, qui se trouvent donc aujourd'hui dans les états principalement de Syrie et de Jordanie. Bon, je vous ai mis là un exemple, celui de Ribat al-Mafjar auprès de Jéricho. Alors, ce qui est conservé, hein, ce qui figure sur la partie gauche de l'image est en fait la partie du palais et de la mosquée et du bain. Le bain est tout en haut, la mosquée est au centre au niveau de la place et puis le palais est tout en bas. Et ce qui figure sur la droite de l'image, c'est en fait la fontaine centrale qui devait donc alimenter ce jardin quadripartite. Donc ces palais du désert Omeyyade avaient été dotés de jardins dont certains étaient des jardins quadripartites. Ce jardin quadripartite, on les trouve aussi dans les palais abbassides, forcément, hein, les fameux palais abbassides, donc à Samarra, par exemple, le palais de Balkouara, hein, donc on a bien sûr retrouvé tous ces petits canaux qui délimitaient ces jardins. Vous voyez que là, on a même plusieurs jardins quadripartites qui entourent, en fait, qui jouxte le palais. Autre exemple, hein, j'aime bien parler aussi de lieux un petit peu lointains et pour en parler un petit peu différemment que ne le fait, je dirais, souvent l'actualité. Il y a des noms qui sont associés toujours à des faits guerriers, c'est vraiment bien dommage. En Afghanistan, le palais de l'Askari Bazar, qui est un palais à la fois d'époque Ghaznévide et Ghouride, on a retrouvé aussi, j'avoue que l'image est un peu ancienne, il est resté toute la partie extérieure du palais, son mur d'enceinte. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a une très grande cour, un espace vide de construction. Et là, les archéologues donc, ont retrouvé des systèmes aussi d'irrigation. Et on suppose, puisque l'espace de cette grande cour centrale est légèrement rectangulaire, on suppose que ce système était au système de jardin quadripartite qui divisait l'espace en quatre espaces réguliers. Donc le site est aujourd'hui complètement en ruine. C'est un site qui a été découvert à la fin des années 1940 par la délégation archéologique française en Afghanistan, et ce site est un site du XIe siècle abandonné après 1221, après l'attaque mongole, et le site, je dirais, n'a pas eu d'histoire, si vous voulez, n'a pas été occupé après, il est tombé en ruine. On retrouve, donc là, on était en Orient, on va se rapprocher de l'Occident, de la Méditerranée, les palais du Maghreb aussi, un exemple, le palais de Raqqada, le palais Aghlabide, donc là, on est au IXe siècle, le palais Aghlabide de Raqqada était aussi donc un palais doté d'un jardin quadripartite. Bon, il est maintenant l'ancien palais est transformé en musée. Je vous ai juste amené parce que c'est assez rare et assez intéressant. Quand on a fouillé le palais de Raqqada, on a retrouvé des flacons en verre. Hein, c'est assez exceptionnel pour quand même être signalé au passage. Alors, on peut aussi évoquer Marrakech, les fouilles. sous la première Koutoubia, ont mis au jour un quartier résidentiel antérieur d'époque almoravide qui a été détruit par les Almohades pour construire la Koutoubia, et on a découvert un jardin là aussi pas grand chose, un petit jardin de quelques mètres, mais qui était quand même un jardin de plan cruciforme. Un autre exemple, le palais Almohade de Marrakech, dans la Casbah de Marrakech, alors qui a perdu aujourd'hui beaucoup de son aspect original du XIIe siècle, mais dont on commence aujourd'hui à connaître un petit peu mieux l'allure. Hein, c'est un palais du XIIe siècle qui a été en fait complètement transformé au XVIe siècle par la dynastie Saadienne. Or, il y a quelques années, on a découvert dans la bibliothèque du monastère de l'Escorial, auprès de Madrid, on a découvert un manuscrit qui représente le palais tel qu'il était en 1585. Et donc, à partir du manuscrit, c'est l'image que vous avez en bas à gauche, eh bien, on a essayé de reconstituer l'allure de ce palais. Et vous voyez qu'il y a, pareil, en haut à droite là, de l'image, un jardin cruciforme avec quatre parterres égaux autour d'une parcelle d'eau, en fait d'un bassin finalement, et qu'en revanche il y a en bas de l'image un jardin sans ordonnancement particulier, un jardin alors qu'on appelle, je trouve que c'est pas forcément toujours heureux, mais c'est l'expression utilisée, on dit que c'est un jardin ouvert parce qu'il n'a pas d'ordonnancement très régulier. Ceci dit, il est quand même fermé soigneusement par une muraille. Alors, toujours en Occident musulman, dans la partie occidentale donc de la Méditerranée, le très célèbre palais de Madinat al-Zahra, un palais du Xe siècle, juste à côté de Cordoue, donc qui est toujours en cours de fouille. Il a commencé à être fouillé en 1908 et il l'est toujours, parce que bon, c'est un site absolument extraordinaire. Il y a une centaine d'hectares d'une véritable ville palatine. Là aussi, dans la partie centrale de la zone palatine, vous avez ce jardin. Alors, vous voyez que c'est un jardin quadripartite avec une forme un petit peu plus irrégulière parce qu'il y a au milieu en fait un petit pavillon, mais on a bien divisé l'espace en quatre parties égales. Donc celui-là est très connu, le site de Madinat al-Zahra est un site extrêmement connu. Moins connu en revanche, dans la région de Murcie, cette fortification en réalité, qu'on appelle El Castillejo de Monteagudo, qui a été le siège en fait d'une petite principauté qui a résisté au pouvoir almohade pendant presque une trentaine d'années, le Castillejo de Monteagudo, qui a été fouillé lui aussi il n'y a pas très très longtemps, eh bien il y a au cœur de cette fortification un palais dont le centre était un jardin cruciforme. Autre exemple, pour vous montrer que vraiment partout, à toutes les époques, on a développé ce type de palais. À Séville, les palais royaux actuels de Séville sont des palais mudéjar, donc en fait postérieurs à l'époque islamique. Mais pareil, l'archéologie permet en fait de reconstituer les palais tels qu'ils étaient au XIIe siècle, au moment de leur construction par les Almohades. Donc vous avez d'un côté la construction actuelle et puis la reconstitution sur l'autre versant. Donc pareil, le jardin était un jardin quadripartite avec quatre parterres égaux. Et puis bien sûr celui que on ne pouvait pas ne pas l'évoquer, que vous attendiez toutes et tous, le jardin quadripartite par excellence, c'est la cour des lions de l'Alhambra de Grenade, qui aujourd'hui est toujours dotée de sa fameuse fontaine aux lions, mais dallées en fait qui sont en dur et de petits gravillons. À l'origine, celui qu'on appelle la cour des lions ou le palais des lions était en fait le palais du jardin, et il était en fait doté d'une végétation relativement luxuriante, mais qu'au fil des siècles, on a transformé en ce que vous connaissez aujourd'hui. Autre jardin, bien sûr, on reste à Grenade, c'est le fameux Generalife, qui est donc associé à l'Alhambra, mais distinct de l'Alhambra, à quelques centaines de mètres de l'Alhambra, le très célèbre Patio de la Acequia, qui porte même le nom, c'est le jardin du canal, la Acequia, le jardin du canal dont le, je dirais, le, la structure centrale qui divise tout le jardin en deux dans le sens de la longueur, c'est une structure hydraulique, c'est un petit canal rempli d'eau. Alors, à l'origine, il y avait au milieu un petit kiosque, hein, là où vous avez un petit pont qui passe au milieu du canal. Il y avait là à l'origine un petit kiosque, donc de végétation vraisemblablement, donc que l'on a supprimé. Hein, et la dernière chose à propos de ce fameux patio de la acequia, c'est qu'on a longtemps supposé que, effectivement, les jets d'eau que vous voyez aujourd'hui sont des jets d'eau que les romantiques au XIXe siècle ont remis dans ces jardins qui les avaient perdus depuis fort longtemps. Mais les travaux les plus récents, justement, qui nous montrent que dans la Bagdad abbasside, donc on est au IXe siècle, on maîtrisait déjà cette technique du jet d'eau. Donc on se demande si finalement les reconstitutions du XIXe siècle n'ont pas en fait reproduit quelque chose qui avait existé à l'époque médiévale. Alors, les jardins du Generalife sont tout à fait remarquables parce que suite à un incendie qui a ravagé une partie de ce jardin en 1958, eh bien, on a fait des fouilles. On a fait des fouilles qui nous ont permis, eh bien, de connaître la végétation de ce palais au XIVe et au XVe siècle. Il y a plusieurs choses qui ont été mises au jour à ce moment-là. D'abord, on a retrouvé le dessin du dispositif cruciforme d'origine. Et puis aussi, on a retrouvé ce qu'on appelle en archéologie des pots qui indiquent en fait dans le sol la présence autrefois d'arbres. Donc on est certain qu'il y avait là des petits arbres qui étaient planté. Et puis bien sûr, on s'est régalé à faire des analyses de pollen pour connaître la végétation qui était plantée là à l'époque médiévale. Et du coup, après l'incendie et les travaux, on va dire, de restauration de ce jardin, eh bien, on a replanté au maximum, en fait, tout ce qui ressemblait à ce que les pollens avaient indiqué. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous promenez dans le jardin du Generalife à Grenade, eh bien la végétation que vous voyez est, je dirais, au plus près de la végétation de l'époque. Donc c'est bon, ça mérite d'être signalé parce qu'il y a tellement de faux jardins andalous que celui-là, je dirais, il est vraiment, je dirais, proche du jardin que les souverains nasrides ont pu contempler. Alors en particulier, donc on sait maintenant qu'il y avait sur les côtés des haies de myrte et au milieu des arbres fruitiers, des orangers, des grenadiers, des espèces arbustives aussi de petite taille, des rosiers et tout un tas de plantes ornementales, laurier-fleur, jasmin, lierre. Alors je vous signale d'ailleurs aussi, parce qu'on continue à faire des recherches, on sait déjà beaucoup de choses sur les jardins, mais on continue à en faire, qu'il y a aujourd'hui un programme de recherche qui se fait au sein de l'Université de Grenade, qui travaille justement sur le fameux myrte morisque. Parce que ce myrte morisque, le myrte qui est aujourd'hui le plus présent dans l'Alhambra de Grenade, est en fait pas celui de l'époque médiévale, mais un autre myrte qui est planté en fait à partir du XVIe siècle. Donc là, en fait, on s'efforce de retrouver en réalité ce myrte morisque qui est représenté sur une peinture qui est au plafond de celle qu'on appelle la salle des rois. Je vous en ai remis un petit morceau là sur l'image, et il y a en fait représenté surtout la fleur de ce myrte morisque. Et donc à partir de cette image, à partir aussi des analyses de pollen, eh bien il y a tout un programme qui vise à rechercher la trace de ce myrte qui est conservé en fait dans d'autres banques, on va dire, botaniques du monde. Et petit à petit, le but c'est de replanter partout dans l'Alhambra le vrai myrte morisque de l'époque médiévale. Il y a encore des massifs, il y a encore certains massifs qui subsistent. La promenade dite des lauriers est encore plantée du myrte du myrte médiéval, si vous voulez, du vrai myrte tel que les souverains nasrides ont pu, je dirais, en sentir l'odeur. Alors Voilà pour le jardin, on va dire, régulier, le jardin cruciforme, à plan cruciforme extrêmement répandu. L'autre type de jardin, je vous le disais, c'est le jardin à ordonnancement libre, hein, que plus souvent dans la littérature, on appelle le jardin ouvert, mais je trouve que ça prête à confusion. Donc moi, je préfère l'appeler le jardin dit à ordonnancement libre, c'est-à-dire qu'il est limité, oui, par une clôture, mais à l'intérieur, eh bien, voilà, il y a des allées, certains, hein, bien sûr, le jardin est organisé, mais pas selon ce plan, je dirais, très, très formaté, ce plan à quatre parterres égaux. Alors, ce jardin, il a pris pour le coup des formes et des dimensions diverses. Le premier jardin, on est tout de suite limité, je dirais, dans l'espace. On ne peut pas faire un jardin à plan cruciforme de 50 hectares, ce n'est pas possible. On a quand même, je dirais, des limites spatiales. Par contre, le jardin à ordonnancement libre, on n'a pas de limites spatiales, donc il a donné lieu à des jardins de formes très différentes. Il a donné lieu, par exemple, au petit jardin périurbain, ce qu'on appelle à Grenade le Carmen, pluriel, hein, los Carmenes, les fameux Carmenes de l'Albaïcine de Grenade. Carmen, hein, en arabe. En espagnol, c'est un mot qui vient de l'arabe. Ça vient de Carme, qui désigne la vigne. Alors, aujourd'hui, je vous ai remis une vue de l'Albaïcine et puis une vue prise de l'intérieur de l'un de ces fameux Carmen. Aujourd'hui, quand on se promène dans l'Albaïcine à Grenade, c'est vrai que toutes les maisons qu'on vous présente comme typiques de l'Albaïcine, elles ont toutes leurs jardins. C'est vrai, aujourd'hui c'est vrai. Sauf qu'au Moyen-Âge, il n'existait pas ces Carmenes. Au Moyen-Âge, il y avait, oui, des Carmenes, des jardins, des petits jardins associés aux maisons, mais ils se trouvaient à l'extérieur de la ville. Hein, on a une belle description du grand auteur de la Grenade nasride, qui est Ibn al-Khatib, qui décrit les environs de Grenade avec tous ces petits jardins à côté des maisons. Alors, pourquoi est-ce que s'il n'y avait pas de jardin dans l'Albaïcine à l'époque médiévale, pourquoi est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Eh bien, parce que après l'expulsion des Morisques, au début du XVIIe siècle, l'Albaïcine se dépeuple, hein, et en fait tombe un petit peu en ruine. Et le quartier de l'Albaïcine redevient un quartier très prisé au XIXe siècle, quand vient la mode de l'orientalisme. En fait, toute la bourgeoisie illustrée de Grenade, influencée par l'orientalisme, revitalise l'habitat de l'Albaïcine, puisque c'était autrefois le quartier musulman de Grenade. Et donc, la bourgeoisie du XIXe siècle à Grenade va introduire des éléments qui lui paraissent orientaux, comme le jardin associé à la maison. Donc les jardins de l'Albaïcine sont tous des jardins en fait du XIXe siècle, hein, ce ne sont pas du tout des jardins médiévaux. Donc voilà un exemple de jardin urbain à ordonnancement libre. On a sans doute, je dirais, reproduit intramuros dans l'Albaïcine s'il existait à l'extérieur. Autre exemple de ces jardins à ordonnancement libre, pardon, je vais y arriver, jardin ouvert finalement c'est plus facile, ce sont ce qu'on appelle les munias. Almunia en espagnol, qui vient de l'arabe Almunia, qui désignait donc une résidence d'agrément située à l'extérieur de la ville, hors des murailles de la ville, résidence d'agrément pourvue d'un jardin. Alors les Munia, il y en a eu dans toutes les grandes villes d'Al-Andalus, depuis la Cordoue au temps des Omeyyades jusqu'à la Grenade nasride. C'était les propriétés rurales de l'élite qui se dotaient, hein, à l'extérieur de la ville d'un très beau jardin. Donc là je vous ai mis un exemple de reconstitution de l'une de ces Munia. J'ai pris un exemple tout à fait, justement un exemple autre, ni Cordoue ni Grenade, l'exemple de Valence, hein, Valence qui a été aussi la capitale d'un petit royaume indépendant au XIe siècle. Le souverain de la Taïfa de Valence s'était aussi doté de son petit jardin. Vous voyez que là, l'ordonnancement est libre. Il n'y a pas nos quatre parterres égaux. Il y a des arbres, il y a des allées, c'est vrai, mais il n'y a pas un plan, on va dire, préfixé à l'avance. Alors, les plus célèbres de ces jardins ouverts, de ces jardins non rigoureusement, je dirais, organisés, ce sont les jardins de Marrakech, la Ménara, hein, de Marrakech, alors là qui est pour le coup un immense jardin extra-urbain, on est hors des murailles de la ville, là c'est une véritable annexe rurale des palais citadins, en fait c'est une propriété foncière de rapport, hein, c'est une propriété plantée d'arbres qui permet de produire des biens que l'on va vendre. Donc le plus célèbre, c'est donc la Ménara, c'est un jardin d'une centaine d'hectares, qui possède au centre un immense bassin, hein, celui que vous avez sous les yeux, agrémenté d'un pavillon. Alors le système d'approvisionnement en eau date du XIIe siècle. L'eau est quand même amenée de 30 km de Marrakech, hein, par un système, je dirais, de canalisation, de barrage qui permet d'amener l'eau. Alors par contre, les plantes qui se trouvent là, hein, sont des plantes du XIXe siècle. On a replanté la ménarade d'oliviers et de palmiers à ce moment-là. Et l'autre très grand jardin, c'est l'Akdal de Marrakech, construit aussi par les Almohades, par le premier calife Almohade. C'est un immense verger clos d'oliviers, d'orangers, un ensemble de jardins, hein, plantés d'arbres, entre lesquels il y avait des pièces d'eau, hein, sur lesquelles flottaient des barques, qui permettaient aussi d'apprendre l'art nautique, d'apprendre à se débrouiller avec une barque. Autre exemple de très vaste propriété comme cela extra-urbaine et assez connue elle aussi, c'est à Elche, hein, donc à l'est de l'Espagne, la palmeraie d'Elche, qui est une des plus importantes palmeraies, je dirais, conservées, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. On recense pas moins de 200 000 palmiers, hein, plantés dans cette gigantesque palmeraie, dont on discute l'origine. Hein, certains veulent faire des Carthaginois les fondateurs de la palmeraie d'Elche. Bon, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si on saura un jour. Par contre, ce qui est certain, c'est que tout le système d'irrigation de la palmeraie, elle date de l'époque omeyyade, hein, date de l'époque du califat de Cordoue. Alors, autre exemple, hein, je peux vous en citer comme ça beaucoup d'autres, les jardins d'Amina, je n'ai pas amené d'image là pour le coup, d'Amina al-Marinia, qui sont dépendants du palais Mérinide de Fès-la-Neuve. Alors là, on a un système de terrasses cultivées qui sont agrémentées de bassins, de ruisseaux, de pavillons, hein, etc. Ce sont de vastes enclos qui sont plantés. Alors, on circule entre, finalement, les éléments plantés, hein, mais voilà, l'ordonnancement est moins rigoureux. Autre exemple aussi de ces jardins, on va dire, ouverts, ce qu'on appelle les jardins qui sont au pied du Generalife, qui sont entre le Generalife et l'Alhambra. C'est un jardin potager. Vous voyez, donc il n'y a pas d'ordonnancement particulier. C'est un jardin potager qui a quand même ce trait assez particulier et remarquable qu'il a maintenu depuis le XIIIe siècle les mêmes méthodes d'exploitation agricole. On a conservé le même système de terrasses et d'irrigation de ces terrasses et ils sont toujours soigneusement entretenus et cultivés, hein, je dirais avec un soin tout particulier, bien sûr. Et les murs qui enferment ce petit jardin sont aussi des murs d'époque médiévale. Autre exemple, et je terminerai par lui, toujours à Grenade, on reste à Grenade et on reste au Generalife, au-dessus, là pour le coup, du palais de la Acequia dont on parlait tout à l'heure, au-dessus se trouve un curieux jardin dont l'élément principal est ce qu'on appelle l'escalier des eaux. C'est-à-dire que sur trois niveaux, un escalier monte sous une voûte de laurier, d'ailleurs, jusqu'à un petit mirador romantique qui date du XIXe siècle, que l'on suppose d'ailleurs installé sur un petit oratoire musulman. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que les deux rampes de cet escalier à trois niveaux ces deux rampes sont un petit canal où l'eau coule en permanence. Donc voilà, là aussi, c'est un jardin sans ordonnancement particulier, hein, avec donc ce très curieux et unique, je ne connais pas, il y en a peut-être d'autres, mais honnêtement, je ne connais que ce seul escalier des eaux, hein, où sur trois étages, sur trois niveaux, on a une rampe dans laquelle, en fait, on peut mettre la main. C'est très agréable en été, quand il fait très chaud, hein, on monte cet escalier en ayant, je dirais, la main qui court dans l'eau. Voilà. Alors, tous ces jardins, que ce soit donc les jardins à plan cruciforme ou les jardins, sans ordonnancement très régulier, ont en commun un art extrêmement savant du paysage, partout. Hein, dans tous ces jardins, est cultivé, je dirais, avec un soin tout particulier. C'est un art très savant du paysage qui est conçu pour l'enchantement du visiteur. L'enchantement du visiteur dont il faut en fait régaler et satisfaire tous les sens. Alors on commence bien sûr par la vue. On commence par réjouir la vue en donnant un sentiment d'harmonie qui se dégage de plusieurs choses. D'abord, de la texture extrêmement complexe et riche qui est offerte par la diversité des matériaux aux surfaces très différentes qu'on utilise. On utilise le marbre, on utilise la brique, on utilise la pierre, on utilise aussi parfois la céramique vernissée. Richesse de toutes ces textures qui a pour but, bien sûr, de donner une image d'abondance, une image de fertilité, de fécondité qui est associée, bien entendu, au jardin. Harmonie aussi qui se dégage de la sensation de légèreté procurée par des motifs qui sont en général des motifs abstraits et géométriques qui sont composés de toutes petites unités qui se répètent. Regardez l'image centrale, c'est la cour centrale en fait du palais de Séville où dans la partie haute au-dessus des colonnes se trouvent des petits losanges qui sont associés les uns aux autres qui se répètent à l'infini. C'est ce qu'on appelle un motif de Sepka qui donne en fait un petit peu de sentiment de légèreté à la construction. Harmonie aussi qui se dégage de toutes les possibilités esthétiques fournies par des architectures qui se reflètent dans l'eau. L'eau, elle sert aussi à cela, à multiplier la construction et à lui donner un effet de légèreté parce que le bâtiment qui se reflète dans l'eau, dès qu'il y a un petit peu de brise, le bâtiment, pourtant en pierre, il est légèrement agité d'un mouvement et il paraît forcément, eh bien, du coup, beaucoup plus léger. Harmonie aussi qui se dégage de tous les jeux d'ombre et de lumière. Quand on se promène dans ces jardins, du Generalife par exemple, on passe en permanence de l'ombre à la lumière, ce qui donne, je dirais, un aspect extrêmement harmonieux à l'ensemble. Alors, la dernière image, si je vais vous en dire un mot tout de suite, tous les arbres et les arbustes étaient taillés, soigneusement taillés, c'est-à-dire qu'on pratiquait ce qu'on appelle l'art taupière, l'art de tailler des arbustes pour leur donner une forme. La dernière image, ce n'est pas une image d'un jardin actuel, c'est extrait d'un manuscrit, l'un des très rares manuscrits à enluminure que l'on conserve pour Al-Andalus, qui raconte les aventures de Riyad et Bayad, qui est conservé à la bibliothèque du Vatican. Et ce que vous voyez, donc le manuscrit met en scène, les amours de deux personnages, et donc des jardins derrière. Vous voyez à quel point les arbres sont magnifiquement taillés. On a l'impression qu'il n'y a pas une feuille qui déborde de cet arbre. Donc, il faut se promener et que la vue soit, que ce premier sens, je dirais, soit satisfait. Mais il faut aussi satisfaire l'odorat. Donc, comment est-ce qu'on satisfait l'odorat ? Eh bien, en plantant des arbres qui sentent bon, donc l'oranger, par exemple, le jasmin. L'image, justement, c'est la myrte morisque qui a une odeur, assez forte, et puis, bien sûr, des fleurs, comme la rose, par exemple. Donc, la vue, l'odorat, mais aussi l'ouïe. Comment est-ce que l'ouïe, est satisfaite ? Eh bien, lorsqu'elle entend des sons délicats, comme par exemple ce bruit de l'eau qui tombe dans de l'eau. Ces jets d'eau, ces fontaines, ou bien l'eau qui va tomber d'une vasque à l'autre, non seulement c'est un bruit qui est assez agréable, mais quand il fait très chaud, eh bien, entendre l'eau qui coule, presque spontanément, on a tout de suite beaucoup moins chaud. Bon, c'est vrai aussi que, bien sûr, l'eau, elle va donner aussi un petit peu, elle va permettre de rafraîchir un petit peu l'air. Les jardins possédaient des volières. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des oiseaux qui étaient là enfermés et le chant des oiseaux participait, de la satisfaction de l'ouïe. Et puis aussi le bruissement du vent sur les feuillages. On choisit exprès des arbres à feuillage persistant, comme les orangers, les cyprès, le palmier. Lorsqu'il y a un petit peu de vent, le bruit du vent dans les feuilles, ça fait aussi une musique finalement qui est assez agréable à entendre. On satisfait donc la vue, on satisfait l'odorat, on satisfait l'ouïe, on satisfait aussi forcément le goût, parce qu'on plante aussi des espèces qui peuvent être consommées. Alors bon, j'en ai juste amené trois hein, pour vous amuser, la grenade, la menthe et la datte. Mais j'aurais pu bien entendu en amener bien d'autres. Et puis enfin, eh bien, on satisfait le dernier sens qui est le toucher. Hein, je vous ai remis l'image de l'escalier de l'eau, parce que c'est vrai que alors, tous les enfants le font, mais aussi les adultes, hein, quand on se promène dans l'escalier des eaux à Grenade, tout le monde monte les marches en ayant la main dans l'eau. Et c'est vrai que c'est très agréable, hein, surtout quand il fait 45 degrés à l'ombre, d'avoir au moins le bout des doigts un petit peu rafraîchi. Et puis, toutes ces feuilles aromatiques, hein, lorsqu'on vient les frotter, eh bien aussi, je dirais que c'est aussi très agréable. Hein, la feuille de menthe, elle est très agréable à toucher, à triturer avant de préparer un thé, par exemple, ou bien une pâtisserie. Voilà donc plaisir des sens, mais les jardins quand même n'ont pas été construits que pour le plaisir des sens. Les jardins ont eu en fait tout un tas d'autres fonctions hein, que de rendre finalement l'homme ou la femme heureuse parce qu'il avait tous ses sens satisfaits. Les jardins ont eu effectivement beaucoup de fonctions. La première fonction donc elle est esthétique. Hein, le but c'est d'avoir un espace agréablement aménagé pour offrir un espace confortable, un espace où on va trouver de l'ombre, où on va trouver de la fraîcheur, hein, ce qui est très prisé dans des régions qui sont particulièrement chaudes l'été. Le jardin, hein, voilà une image de l'Alhambra en mai 2018, vous voyez la richesse des couleurs hein, de cette végétation grenadine. Le jardin a aussi une fonction sociale. Le jardin est un lieu de la vie sociale. C'est le théâtre de nombreuses intrigues amoureuses. Hein, les contes des mille et une nuits ont très souvent comme scène le jardin du palais. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, les amours de Bayad et Riyad, ou bien c'est aussi là, c'est un. Alors vous avez, on a amené ici du Louvre une pyxide, hein, bon pas celle d'Al-Mughira, mais c'était un petit peu quand même à prévoir parce que c'est la plus précieuse des pyxides, je dirais de l'époque califale. Sur cette pyxide d'Al-Mughira, datée de 968, eh bien on a une scène en fait de la vie princière, et vous voyez que la vie princière, eh bien c'est entre autres la vie des musiciens et le plaisir de la fête se déroule très souvent dans le jardin hein, où le souverain accueille ses hôtes. Le jardin a aussi parfois, alors je vous ai remis aussi une autre image de ce Bayad et Riyad hein, parce que je trouve que ce sont de très très belles images, en plus elles sont rares et elles sont d'autant plus précieuses. Le jardin avait aussi une fonction politique. Le jardin est associé au palais. Le jardin est une des pièces, finalement, du palais. C'est le prolongement des salles de réception du palais. C'est là que le souverain accueille ses ambassadeurs hein, pour essayer d'obtenir une solution qui va l'arranger dans le traité qu'on est en train de négocier. Et bien entendu, le souverain a à cœur d'amener l'ambassadeur dans un espace particulièrement agréable hein, pour le mettre en bonne composition pour signer l'accord. Alors le jardin, donc c'est vraiment le lieu par excellence où les alliances sont conclues. Et pourquoi est-ce que je vous ai amené une image de Tolède pour une petite anecdote de l'histoire de la péninsule ibérique au XIe siècle, le roi de Castille et de Léon, Alphonse VI, qui s'empare de Tolède en 1085, alors que Tolède était la capitale d'une dynastie berbère indépendante, eh bien la petite histoire raconte que le roi Alphonse VI de Tolède a réussi à mettre en place en fait un système judicieux de siège de la ville parce que, avant de venir faire le siège de Tolède, il avait été en fait accueilli par le roi de Tolède lorsqu'il avait perdu son trône. Vous voyez que des fois en politique on n'est pas toujours on n'est pas toujours fidèle. Il avait été accueilli par le roi de Tolède lorsqu'il avait perdu son trône, et un jour il s'était un peu assoupi dans le jardin du palais de Tolède et il avait entendu le roi de Tolède raconter quels étaient les points faibles de la ville. enfin, l'avait un peu réveillé, il avait enregistré. Et puis, ben, quand quelques années après, une fois son trône récupéré, il était venu attaquer Tolède, eh bien, il s'était souvenu de tout cela. Donc, voilà pour vous montrer que le jardin apparaît même dans des petites intrigues, des petites histoires hein, que la grande histoire a retenues. Le jardin, vous voyez, je vais du plus, on va dire, superficiel hein, au plus important. Le jardin a surtout des fonctions économiques. Le jardin est par excellence le lieu de la culture, le lieu de la polyculture. Hein, le jardin est cultivé, c'est à la fois un verger, c'est à la fois un potager sur trois niveaux. Hein, tout en bas, il y a les plantes potagères, les plantes aromatiques, les fleurs. Au-dessus, les arbres fruitiers. Et un troisième niveau, les palmiers, qui non seulement produisent les dattes, mais aussi produisent de l'ombre hein, pour protéger ceux qui se trouvent en dessous. Alors, la question aussi, c'est est-ce que tous les jardins à l'époque médiévale ont été des jardins potagers, comme Villandry par exemple ? Alors, l'idée que tous les jardins à l'époque médiévale ont forcément été des jardins potagers est une idée qui apparaît au début du XXe siècle à partir en fait de parallèles que l'on fait avec le Maghreb. Hein, au début du XXe siècle, au moment où les Français étaient présents au Maghreb, ils ont fait des études hein, sur ce qu'ils avaient en fait sous les yeux. Et comme ils ont vu des jardins qui mêlaient les fleurs et les plantes, le potager, ils en ont conclu que le jardin avait dû toujours mêler les plantes comestibles, les plantes aromatiques et les fleurs, et que les jardins marocains du XXe siècle étaient à l'image des jardins médiévaux. Donc l'idée s'est diffusée partout. Elle a été, je dirais, considérée comme dominante et universelle et on a souvent tiré l'argument que le Moyen-Âge étant une époque de pénurie et de disette la plupart du temps, on n'avait pas le luxe, on n'avait pas les moyens de se payer le luxe d'avoir des jardins uniquement plantés de fleurs et d'arbres esthétiques. Alors le problème, c'est que l'expulsion complète et définitive des plantes utiles des jardins, ça date que de l'époque du baroque européen, et bien ce concept d'un jardin potager, en fait, a eu la vie très dure. Hein. Et bon, c'est vrai que le jardin, le potager de Villandry, hein, le potager à l'origine date du XVIe siècle. Donc, effectivement, là, on est encore à une époque où on peut avoir des plantes potagères dans le jardin. Après, c'est fini, c'est complètement banni. Sauf que le problème pour nous, c'est que la littérature arabe, la poésie en particulier, ne dit rien d'un tel mélange des genres. Et quand on a fait les analyses de pollen à partir de ce qui est apparu à l'intérieur du René Ralifé, on n'a pas retrouvé de traces de plantes potagères. Hein. Donc, je ne veux pas vous dire, ne partez pas avec l'idée inverse que tous les jardins des palais de l'islam au Moyen-Âge n'étaient que des palais esthétiques, non, mais attention à cette idée qu'il y avait forcément partout des plantes potagères. Hein. Pour le René Ralifé, c'est faux, on le sait puisqu'on a fait des analyses de pollen. Alors, enfin, et puis je terminerai par là, forcément, Le jardin a un rôle agronomique. Le jardin permet le perfectionnement théorique et pratique des méthodes d'agriculture. Et je vous ai remis là le plus célèbre des traités d'agronomie produits en Al-Andalus, qui est le traité d'Ibn al-Awam, hein, qui est donc un auteur du XIIe siècle, qui introduit tout un tas de choses extraordinaires dans le jardin, dont certaines nous les conservons toujours aujourd'hui, comme par exemple la technique de l'irrigation au goutte à goutte que les jardiniers d'aujourd'hui continuent hein, à utiliser, alors avec des pratiques, on va dire, un petit peu différentes de l'époque médiévale, puisque c'est souvent le tuyau d'arrosage en plastique qui a remplacé les poteries. Mais ce que dit Ibn al-Awam, c'est qu'il faut disposer au pied de l'arbre deux jarres d'argile neuve remplies d'eau douce et on perce le fond de petits trous, ce qui fait que l'eau va s'écouler goutte à goutte. Hein. La technique du goutte à goutte, elle est encore aujourd'hui tout à fait utilisée. Ibn al-Awam aussi met au point la fabrication de l'engrais. Enfin, il suggère de fabriquer un engrais pour quand on manque en fait d'engrais animal. Eh bien, en fait, en utilisant les déchets des préparations culinaires, hein, eh bien, on met tout cela ensemble dans le jardin, les balayures des maisons, aussi la cendre, et puis, eh bien, on mélange tout ça, on l'étale, on le laisse sous la pluie, on le mélange à nouveau, on le laisse se réduire en poudre, et puis, bah, le produit qui est là, ça ressemble, dit Ibn Alaouane, ça ressemble à la colombine et ça peut permettre, je dirais, de donner de l'engrais au jardin. Bon, maintenant, on nous demande de faire du compost, hein, même dans la ville de Nantes, en descendant à pied de la fac tout à l'heure, j'ai vu une poubelle à compost. Donc, en fait, on demande aux gens du quartier de venir mettre leurs épluchures de légumes. Bon, ben voilà, on ne fait que reproduire ce qu'Ibn Alaouane nous prescrit depuis le 12e siècle. Alors, pour terminer, je vois qu'il est quand même 8h moins 10, donc je pense qu'après il va falloir fermer la salle. Je vais quand même vous dire un petit mot. Non, c'est pas grave si je déborde un tout petit peu de 8h. Bon, merci. Je voulais vous dire un mot quand même des héritages aujourd'hui des jardins d'islam. Alors, je suis restée en Europe, j'ai pris une petite période, en fait, finalement, la nôtre surtout, hein, 20-21e siècle, pour vous montrer ce qu'il nous reste aujourd'hui, finalement. Outre, je dirais bien sûr, le patrimoine, hein, le patrimoine archéologique, architectural de l'islam médiéval, qu'est-ce qui finalement nous reste de ces jardins d'islam, presque un petit peu dans notre quotidien, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, eh bien, il nous reste d'abord tout un tas de plantes. Il nous reste un nombre assez important de plantes qui viennent du monde de l'islam. Et je vous ai mis quelques exemples, hein, il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais juste quelques exemples de mots français qui sont d'origine soit arabe, soit persane, soit turque, bref, qui nous viennent du monde de l'islam, puisque un lexique, les mots qu'on emploie sont révélateurs du moment où l'objet désigné par le terme entre dans la vie quotidienne. Hein, je ne vais pas reprendre des mots que l'on utilise beaucoup depuis mars 2020, mais vous verrez que dans quelques années, il y a des mots qui seront associés à une période particulière de notre histoire. Parce qu'effectivement, quand on commence à utiliser un objet, hein, de manière quotidienne, eh bien, effectivement, il entre dans le vocabulaire parce qu'il est présent dans notre quotidien. Alors voilà quelques mots que je vous mets là. Le mot abricot, hein. L'abricot, qui vient donc de l'arabe al-barkouk, qui nous vient, c'est souvent le cas d'ailleurs, par la langue espagnole, l'albaricoque, hein, espagnol, qui est attesté donc dès 1330, un petit peu plus tard en provençal. Il passe d'abord par le provençal avant d'arriver dans la langue française. Autre mot, l'aubergine. Hein, Al-Badidjan, qui vient là pour le coup du persan, qui est un légume originaire de l'Inde, qu'on voit apparaître au XIIIe siècle en catalan. L'artichaut, hein, Al-Khurshouf, qui apparaît aussi d'abord en catalan, avant d'apparaître dans d'autres langues européennes. L'épinard, hein, l'épinard, Isbanir, pardon, qui vient aussi par l'espagnol, l'espinaca, et qui est diffusé donc dans toutes les langues européennes au XIIIe siècle. L'estragon, hein, Talhoun. Le lim, le citron vert très juteux qui vient de l'arabe limoun, lequel même vient du persan, qui est un terme générique en fait pour désigner au Moyen-Âge le citron et l'orange, hein, dont la culture est introduite par les Arabes en Espagne. Le terme de limon en espagnol est attesté dès 1314. La fameuse orange, alors attention, naranj, oui en arabe, mais c'est l'orange amère. Hein, l'orange douce, elle est plus tardive, elle vient de Chine, elle est introduite beaucoup plus tard par les portugais. La pastèque aussi, c'est un terme qui vient de l'arabe. La pêche, le sucre, hein, sucar, que la culture de la canne à sucre, là aussi, est introduite en Al-Andalus et en Sicile par le monde arabo-musulman. Le coton, al-koutoun, hein, el algodón des Espagnols, notre coton, qui vient aussi de la langue arabe. Alors, avec une particularité, c'est que la langue espagnole a gardé l'article. Al-Koutoun en arabe, Al-Godon en espagnol, et nous on a supprimé l'article, on a gardé que le terme coton. Hein. Ça, c'est une des particularités, je dirais, de l'adaptation de la langue arabe à la langue espagnole. Le lilas aussi, hein, le jasmin, yasmine qui vient donc aussi du persan, la fameuse tulipe, là aussi j'ai pas pu résister bien sûr à la tulipe, qui vient d'un terme turc, tulben, qui veut dire le turban. En raison, c'est vrai, de la forme si particulière de la fleur, Et en fait, ça vient d'une confusion d'un ambassadeur flamand qui était présent au XVIe siècle à Istanbul. Et en fait, le terme turc n'a rien à voir avec cela. Hein, les Turcs l'appellent l'Ale, qui est l'anagramme d'Allah. Mais en fait, l'ambassadeur n'a pas bien compris et il a pris le terme turban, enfin pour le terme en fait de tulipe. Voilà. Donc en fait, on n'appelle pas tulipe comme on devrait l'appeler, mais ça fait pareil, ça fait partie des histoires amusantes. Des mots. Alors, le lexique donc est révélateur du moment où l'objet désigné par le terme entre dans la vie quotidienne. Mais là aussi, depuis quelques années, on a fait des recherches en archéobotanique, des analyses en fait de graines fossiles et de fruits, de graines et de fruits, qui montrent que l'histoire des plantes est plus complexe qu'on ne l'avait imaginé jusque-là, et que certaines plantes que l'on considère comme des marqueurs de la révolution agronomique arabe, sont en fait présents, attestés dans l'Europe gréco-romaine. Quelques exemples, le riz, le citron, la pastèque, l'abricot, le melon. Et aujourd'hui, on arrive à des vues beaucoup plus nuancées, en fait, sur la circulation très complexe, en fait, des plantes autour de la Méditerranée. Alors, je vous donnerai quelques exemples. Le riz, par exemple, le riz est existe dans le monde romain, mais c'est un objet de luxe, c'est un produit de luxe. Par contre, le riz devient un produit extrêmement courant, consommé par tous en Al-Andalus dès le 9e siècle. Et après, il va se diffuser, au-delà. Des produits comme la noix de coco, comme l'artichaut, la pastèque circulent en Méditerranée orientale à l'époque romaine. Par contre, elles sont restées en Méditerranée orientale, elles n'ont pas débordé le cadre de l'Orient méditerranéen. Voilà. Alors, certaines plantes, donc, en fait, étaient connues, je dirais déjà à Rome, mais elles étaient, en fait, limitées à une élite. Et en réalité, ce que va permettre la révolution hydraulique arabe, eh bien, c'est de rendre ces produits-là, je dirais, beaucoup plus faciles à cultiver. Et donc, on va davantage les trouver sur toutes les tables, là où ils étaient autrefois réservés à une élite. Voilà. Donc, autrement dit, il y a deux idées fausses qui circulent et qu'il faut supprimer. L'idée que les croisés ont ramené l'abricot en France l'abricot est arrivé en France avec les croisades, ça non. L'abricot, je dirais, est connu en Al-Andalus bien avant. Et puis aussi, attention à cette idée qu'on utilise parfois un petit peu trop, celle de l'étymologie. Dès que le mot a une origine arabe ou persane ou turque, ça veut dire qu'on ne le connaissait pas avant qu'il soit arrivé par le canal, du monde arabe ou du contact avec le monde turc. Non, les vues maintenant sont un petit peu plus nuancées. Deuxième héritage, mais là aussi c'est encore un faux héritage, donc j'espère que vous ne repartirez pas trop déçus, que certaines idées, je dirais pourtant assez communes, je les ai un petit peu égratignées. Deuxième héritage du Moyen-Âge, ce que j'ai mis, les faux jardins médiévaux. Les faux jardins médiévaux, pourquoi ? Parce qu'il faut être bien conscient d'une chose, c'est qu'il n'existe plus aujourd'hui aucun jardin médiéval parvenu jusqu'à nous dans son état initial. D'accord ? Parce que, pour plusieurs raisons, d'abord parce que les traditions ultérieures au Moyen-Âge, et en particulier la Renaissance, ont fait disparaître les modèles existants. Par exemple, le fait d'exclure des jardins tout ce qui est plantes potagères. Et il est très difficile de savoir, sauf quand on fait vraiment des analyses de pollen ou de graines, il est très difficile de savoir à quoi ressemblaient les jardins au Moyen-Âge, parce que les jardins sont des réalités vivantes. Elles sont composées de végétaux qui naissent, se développent, qui meurent. Et ces végétaux sont très sensibles aux innovations botaniques. Quand le myrte introduit au XVIe siècle, était plus costaud que le myrte morisque, hop, on l'a remplacé partout, ou presque. Ça se voit à peine, mais un œil attentif, si un botaniste le voit. Les végétaux sont aussi sensibles à l'abandon, les végétaux sont aussi très sensibles aux maladies. Il n'y a plus beaucoup de vrais buis dans nos jardins en France. Des buis qui sentent vraiment L'odeur du buis, il n'y a pratiquement plus, parce qu'ils ont été mangés par un vilain papillon qu'on essaye qu'on poursuit assidûment pour sauver notre seul pied de buis de notre jardin. On les a remplacés par un arbre qui lui ressemble, mais le vrai buis, il n'y en a pratiquement plus. Alors, par contre, le jardin, ça attire les touristes, c'est vendeur, un jardin. Un jardin, c'est vendeur, ça attire des touristes, donc il est toujours tentant d'en aménager là où il y en avait autrefois. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours les connaissances nécessaires ou les moyens techniques pour reconstituer vraiment les jardins tels qu'ils étaient à l'époque médiévale. Donc méfiez-vous, parce que beaucoup de jardins qu'on vous présente comme des jardins médiévaux sont en fait des faux jardins médiévaux, et c'est ce qui arrive bien sûr aussi aux jardins arabo-andalous, qui sont souvent soit incohérents, soit aussi complètement anachronique. Alors, je vais vous raconter l'histoire du jardin de la sultane, du cyprès de la sultane, qui se trouve donc à l'intérieur du jardin du Généralife à Grenade. C'est une cour jardin qui est construite après 1492, après la conquête de la ville par les rois catholiques. Et à ce moment-là, donc après 1492, on plante toute la cour de cyprès, dont il ne reste plus qu'un aujourd'hui, parce que voilà aussi, la végétation, c'est toujours extrêmement fragile, et dont le nom renvoie à un épisode associé à la dynastie Nasride. On a mis une petite plaque dans un coin du jardin pour rappeler donc qu'on est là auprès du cyprès de la sultane. Sauf que l'épisode, d'abord, il est complètement légendaire, premièrement, et qu'en plus, le jardin lui-même est un jardin postérieur à l'époque islamique et postérieur à 1492. Qu'est-ce que raconte cette histoire? Eh bien, à la fin de l'histoire des Nasrides, les grandes familles se chamaillent pour exercer le pouvoir. Il y a les Nasrides donc, qui sont en place depuis le début du XIIIe siècle, et puis il y a les Abencerrage, une autre grande famille qui aimerait bien récupérer le sultanat. Donc, autour de cette lutte, là, qui a existé par contre, elle a même été extrêmement, c'est très mal terminé pour les Abencerrage, la lutte a existé, mais autour de ce fait historique ont été brodés tout un tas de récits légendaires, dont l'histoire que un membre de la famille des Abencerrage, qui s'appelait Aben Ahmed, a séduit la femme du dernier sultan Nasride de Grenade, Boabdil, et que en colère, le souverain fait massacrer tous les Abencerrage pour se venger dans le palais de l'Alhambra. Et alors, forcément, très vite, dès l'époque moderne, dès le XVIIe siècle, des voyageurs mentionnent à Grenade le cyprès de la sultane. La sultane qui d'ailleurs change de nom d'une histoire à l'autre. Des fois c'est Zoraïa, des fois c'est Zoraïda, des fois c'est Zoréi, des fois aussi c'est Al-Fahima. Mais forcément, comme elle n'existait pas, c'est compliqué de lui donner son vrai nom. Alors, quand on regarde dans les travaux de la fin du XVIIIe siècle, celui qu'on peut considérer comme le premier historien, même si vraiment le début vraiment de l'histoire, c'est le XIXe siècle d'une histoire scientifique, mais bon, on a les premiers pas quand même au XVIIIe siècle. L'historien jésuite espagnol Juan de Echeverría réussit même à localiser l'endroit de la rencontre entre Aben Ahmed et la sultane. Il a trouvé où c'était sous le cyprès de la sultane. Alors, cette légende, elle va inspirer aussi les romanciers, un certain François-René de Chateaubriand, dans Les aventures du dernier Abencerrage, nouvelle publiée en 1826, dont il avait commencé d'ailleurs la rédaction en voyageant en Andalousie en 1807. Eh bien, il donne pour héros à son histoire Aben Ahmed, qui est le fils d'un Abencerrage, qui a échappé au massacre, qui s'est réfugié à Tunis et qui revient à Grenade et qui s'éprend pour le coup d'une chrétienne, une certaine Blanca, qui est ni plus ni moins qu'une descendante du Cid. Voilà. Donc on a brodé tout un tas d'histoires complètement légendaires autour d'un fait historique. C'est vrai, il y a eu effectivement une lutte terrible entre les Nasrides et les Abencerrage, mais les romantiques se sont donnés à cœur joie au XIXe siècle, et on a même réussi à localiser le lieu de la rencontre entre cet Abencerrage et la sultane, et c'est magique parce que c'est dans un jardin qui n'existait pas en plus à l'époque. Donc là, je veux dire que dans le faux du faux, on a vraiment tout ce qu'on voulait, on a gagné. Alors, dernier exemple de ce qui nous reste hein, quand même aujourd'hui, finalement d'une autre forme d'héritage, j'ai voulu prendre des exemples très différents de ces héritages, ce sont des créations ex novo de jardins arabo-andalous hein, qui ont eu lieu au 19e et au 20e siècle. Et je prendrai l'exemple à Séville du parc de Maria Luisa, hein, de l'infante Maria Luisa, duchesse de Montpensier, qui offrit à la ville de Séville en 1893 des jardins qui faisait partie d'une propriété qui était sienne, le palais de San Telmo, qui existe toujours. Aujourd'hui, c'est le palais qui abrite la Junta de Andalucía à Séville. Et ce jardin donc donné, c'est dans ce jardin donné à la ville de Séville qu'un paysagiste et urbaniste français, Jean-Claude Nicolas Forestier, conservateur des promenades de Paris, connu donc surtout pour avoir mené campagne en faveur du parc de Bagatelle, eh bien est appelé à Séville, puisque c'est le grand paysagiste de l'époque, il est appelé à Séville en 1910, pour concevoir le projet d'un grand parc public qui est pensé à ce moment-là pour accueillir la grande exposition hispano-américaine de 1911. Bon, sauf que voilà, les événements politiques de l'Europe ont fait qu'elle a été plusieurs fois repoussée. Elle a finalement lieu en 1929. Et à ce parc, forcément, on ne peut pas faire autrement que de donner le nom de celle qui a de la donatrice en fait de l'espace. C'est donc ce fameux parc Maria Luisa. Le parc est inauguré en 1914, même si l'exposition est retardée. Alors Forestier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas bête hein, du tout, bien au contraire. Il vit en Andalousie. Il visite l'Alcazar de Séville, il visite l'Alhambra, il visite le Generalife et il en retire tous les principes fondateurs, selon lui, du jardin hispano-andalou. La disposition en quadrillage régulier, hein, il avait bien repéré le Jardín de Crucero, les allées en saillie bordées de myrtes soigneusement taillées, recouvertes d'un dallage, une irrigation abondante hein, par immersion, fournie par tout un réseau de fontaines et de bassins, des canaux découverts, faits de céramique brillante, de très hauts murs, recouverts d'azulejos multicolores, une profusion de fleurs parfumées, beaucoup de jasmin, de fleurs aux couleurs éclatantes, hein, beaucoup de roses et beaucoup d'arbres pour donner de l'ombre. Hein. Donc ces jardins sont encore, voilà, c'est un des grands lieux, je dirais, de promenade des Sévillans. Hein, quand on habite Séville, on va forcément se promener à un moment ou un autre dans ce parc, qui est un parc de 34 hectares. Donc en plus, on a de la place, c'est vraiment un petit peu aussi le poumon vert de la ville de Séville. Alors, c'est un parc voilà, extrêmement fréquenté. Et dernière image, hein, pour terminer cette séance, Forestier, c'est pour terminer sur Forestier, est aussi à l'origine, dans une petite ville andalouse, la ville de Ronda, il est aussi à l'origine du jardin de la maison de celui qu'on appelle le roi mort de Ronda. Alors là, c'est pareil, c'est aussi un jardin, alors vous comprenez, totalement imaginaire, ce palais est construit au-dessus de ce qu'on appelle la mine, un puits creusé dans la roche qui vient puiser l'eau en fait dans la rivière qui est en contrebas. Et donc là, il y a une construction qui n'a pas grand-chose de médiéval, mais qui est dans le goût, on va dire, médiéval. Donc il fallait lui ajouter un jardin, on va dire, dans les goûts des jardins andalous. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Et puis pour terminer, je vous ai juste mis quelques titre de bibliographie. Hein, je termine forcément sur le Generalife, qui est un des jardins, des magnifiques jardins, là pour le coup vraiment très proche dans sa végétation de ce qu'il était à l'époque médiévale. Et je vous mets quelques titres d'ouvrages, hein, donc celui de Mohamed El Faïz, qui est la meilleure synthèse sur l'histoire de l'eau. Un catalogue d'exposition un petit peu ancien maintenant, hein, enfin l'exposition n'existe plus, ça je vais vous dire, mais l'Institut du monde arabe organise régulièrement de très belles expositions, donc il y en avait une sur les jardins d'Orient. Et puis donc cet article là qui remet un petit peu en cause des idées en fait toutes faites qu'on avait sur ces plantes de l'héritage arabo-islamique, hein, puis paru en 2015. Et puis donc un ouvrage aussi sur l'essor de l'agriculture en Al-Andalus d'un agronome. Louis Albertini est un agronome qui s'intéresse. Donc voilà, c'est le regard, là, non pas de l'historien, mais vraiment, je dirais, du spécialiste des techniques de culture. Voilà. Et ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein, et j'espère vous avoir fait donner un peu. Voilà, si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire. Oui? Alors oui, dans les traités, hein, il y a effectivement la description de la façon de mettre alors, là, au niveau mécanique, je ne voudrais pas trop vous dire, mais la leçon d'horloge hydraulique, oui, elle figure, bien sûr. Et à Tolède, le roi de Tolède avait fait construire une horloge hydraulique dans son palais. Bon, on a juste la mention dans les sources textuelles, hein, on n'a pas de, je dirais hélas, de matérialité de cette horloge. Hein, mais oui, c'est une chose qui est connue, oui. D'accord, c'est pas voilà, c'est tout à fait plausible. Hein, c'est vrai qu'il y a une maîtrise de l'hydraulique qui laisse sans voix quand on lit effectivement ces traités, ne serait-ce que la construction des canates. Vous vous rendez compte, c'est puits, hein, que l'on creuse à distance égale pour aller en fait creuser une galerie souterraine au niveau de la nappe phréatique. Hein, c'est bon, c'est une technique voilà. Qui demande que l'on connaisse parfaitement le degré de résistance des roches pour être capable de tailler de telle ou telle manière. Voilà, il y a une maîtrise de l'eau qui est absolument extraordinaire. Hein. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Voilà. Oui ? Oui ? Oui.
Est-ce que l'équivalent existe en Orient ? C'est-à-dire la nouvelle Syrie, par exemple, etc. Et est-ce que, pardon, ça a pu résister, ce qui devait être là, est-ce que ça a pu résister aux différentes guerres, malheureusement, qui se sont suivies ?
Alors, je dirais, voilà, que le problème, il est là. C'est-à-dire, par exemple, c'est sûr qu'il y a eu des jardins absolument extraordinaires à Samara. Sauf que ben, Samara, c'est aujourd'hui... Alors, ça a été un site archéologique qui a été, je dirais, bien fouillé, mais je dirais que, hélas, les événements de guerre de l'Orient, de manière générale, ont fait qu'on a tout interrompu, les travaux de fouilles. Hein, et que, à ma connaissance, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, mais je pense même, par exemple, à la ville du Caire, j'ai pas en tête des images, je dirais, de jardins, comment dire, reconstitués ou conservés. Comme de toute façon, l'Alhambra, c'est le palais médiéval le mieux conservé. C'est le palais médiéval le mieux conservé parce que à Istanbul, le palais Topkapı, c'est surtout un palais beaucoup plus tardif. Hein, l'Alhambra, c'est le seul palais, à mon sens, aussi bien conservé. Effectivement, j'aurais pu aussi, voilà, vous amener. C'est vrai que à Istanbul, voilà, un peu aussi, oui. Mais voilà, c'est vrai que le corpus documentaire, c'est vrai qu'il est vraiment, il est très riche. Bon, il y avait par exemple Alep, il y avait une citadelle à Alep avec un palais, le palais d'Al-Razi à Alep. Bon, j'avoue, je ne sais pas bien ce qu'il reste aujourd'hui de cette construction. Oui.
J'ai envie, si ça ne vous dérange pas, et si ce n'est pas indiscret, de me permettre de lire quatre vers de Victor Hugo.
Oui.
Parce que j'ai eu la chance d'avoir eu, il y a longtemps, je suis né en Algérie, il y a très longtemps, on m'a donné un prix. Ça s'appelait, cet ouvrage, Atala René, deuxième partie, le dernier des adversaires. Et en lisant ce texte, il y a en astérix les quatre vers de Victor Hugo qui m'ont fait plaisir, qui m'ont flatté, parce qu'il s'agissait monde arabe. L'Alhambra, l'Alhambra, palais que les génies ont doré comme un rêve et rempli d'harmonie, forteresse aux créneaux festonnés et croulants, où l'on entend la nuit de magiques syllabes, quand la lune, à travers les mille arceaux arabes, sème